وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc inshallah on va continuer la suite du cours précédent concernant shurut la ilaha illallah, les conditions de cette bonne parole, la parole de vérité, cette parole qui est la clé de l'islam, la ilaha illallah, que nul n'est adorant en vérité si ce n'est Allah. Et après l'introduction qu'on avait fait, et on avait entamé la première condition. On avait entamé la première condition de la ilaha illallah. Et donc on ne l'a pas terminée, on va la continuer inshallah. Et on s'est arrêté sur une des preuves, un des arguments de cette condition qui est al-ilm, le savoir, la connaissance. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Sauf, dans le sens du verset, celui qui témoigne avec vérité tout en le sachant. Puis l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit: wa min as-sunnati al-hadith al-thabit fi as-sahih عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Et parmi les preuves, les arguments dans la sunna, donc on a vu un verset coranique. Maintenant, il ramène comme preuve un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, donc un hadith authentique. Il est rapporté par l'imam Muslim, comme c'est précisé dans la notation. Donc c'est l'imam Muslim qui le rapporte dans son authentique. D'après Uthman, radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le troisième calife de l'islam, la troisième meilleure personne chez les compagnons, après Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum, ajma'in. Et Uthman était un homme loyal, droit, juste, généreux, un riche homme qui dépensait beaucoup dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala, a témoigné de cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne, tellement qu'il a dépensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: plus rien ne pourra nuire à Uthman après ce qu'il a accompli comme œuvre de dépense dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un homme promis au paradis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite les 10 personnes, les noms de 10 personnes promises au paradis, la troisième personne citée, c'est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. On l'appelle Zunnurayn, celui qui avait les 2 lumières, les 2 filles du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Uthman et donnait une place à Uthman de sorte qu'il va donner une fille en mariage. Puis quand cette fille du prophète alayhi salatu wa sallam est décédée, radiyallahu anha, il en a donné une deuxième en mariage. Cet homme qui a cette place auprès du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de pudeur et il en avait spécialement pour Uthman radiyallahu anhu. Et il disait: ne vais-je pas avoir de la pudeur envers celui dont les anges eux-mêmes ont de la pudeur? Les anges, les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne désobéissent jamais à Allah, qui ne font qu'obéir à Allah azza wa jal, ont de la pudeur envers Uthman radiyallahu anhu. Cet homme qui a cette grande place, ce grand calife, ce grand compagnon, et on est face à ces rawafid, ces shi'a, qu'Allah leur donne la sentence qu'ils méritent. Ils le prennent comme ennemi. Et ils parlent en mal de lui. Et ils le taxent d'hypocrisie et de mécréance. Qu'Allah leur donne la sentence qu'ils méritent. Et viennent des gens soi-disant affiliés au sunnisme, comme si face au Rawafid, tout le monde était sunni. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la communauté musulmane, va se diviser, pas seulement en deux, il a dit en 73. Donc, il n'y a pas Ar-Rawafid d'un côté, et de l'autre côté, tout le reste de la communauté, ce sont des Ahl al-Sunnah. Non, Ahl al-Bida', les gens de l'innovation, les aides de l'innovation sont nombreux. Sont très nombreux. Il y a Al-Murji'ah, il y a Al-Khawarij, il y a Al-Qadariyah, il y a Al-Jabriyah, Al-Mu'tazila, et plein d'autres. Ça, ceci, ce n'est pas une liste exhaustive, à titre d'exemple. Donc, Sayyid Qutb, à titre d'exemple. Voilà où ça l'a amené, après avoir quitté les idéologies communistes, socialistes, marxistes, et je ne sais encore quoi, après avoir connu la franc-maçonnerie, il se met dans la religion en pensant que je ne sais quelle était son intention, ça c'est entre lui et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Que l'islam c'était celui prôné par les frères musulmans. L'islam prôné par les frères musulmans n'est pas l'islam prôné par le prophète alayhi salatu wassalam. Il contredit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et eux appelaient depuis leur début au rapprochement avec les Rawafid. Et donc, Sayyid Qutb a puisé ici et là, sans savoir discerner le vrai du faux, et il est venu avec ce résultat-là néfaste, destructeur, mauvais. Il a fait revivre l'idéologie des Khawarij. Et la majorité, pratiquement tous les Khawarij de notre époque, ont trouvé source dans les écrits, ce qu'a laissé Sayyid Qutb. Puis on vient nous dire, pourquoi parler sur Sayyid Qutb, il est déjà mort. Combien de gens sont morts et avaient ce qu'ils avaient comme erreur, égarement, éloignement, ainsi de suite. Mais avec leur mort, il n'y a aucune trace d'eux, plus rien. Sayyid Qutb a laissé des livres. Et ceux qui disent ce genre de phrases, ce sont ceux qui propagent ces livres en général, avec les erreurs qu'il y a dedans, avec la complicité de son frère, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Mohamed Qutb, qui n'a jamais voulu corriger les erreurs de son grand frère. Sayyid Qutb s'en est pris aux compagnons. Uthman ibn Affan, il ne reconnaît même pas sa période de califat. Pour lui, c'est un trou, c'est un vide entre Omar et Ali. Et des accusations contre Uthman, radiyallahu anhu. Et il parle en mal d'autres compagnons. Et il doute même sur leur islam, en disant que ce sont des gens dont la foi n'a jamais traversé le cœur, des hypocrites. Ça, ce sont les paroles de Sayyid Qutb, que certains l'ont mis à un stade qui n'est pas le sien. Et ils l'ont pris comme référence. Ça n'a jamais été un savant dans les sciences religieuses. Wal'iyadu billah. Et aujourd'hui même, il y en a encore. Chaque idéologue, il a des héritiers. Vous avez le Palestinien là qui est en Scandinavie, en Suède ou je ne sais où, Adnan Ibrahim. Pareil. Qu'est-ce qu'il véhicule? Ce genre d'idéologie. Et de parler en mal sur les compagnons. Wal'iyadu billah. Et ça fait la joie des Rawafid. C'est pour cela qu'à Téhéran, On a des boulevards qui portent le nom de Saïd Qutb. Ils ont mis des timbres, ils ont publié des timbres à l'effigie de Saïd Qutb. Ils lui sont reconnaissants d'avoir fait ce qu'eux-mêmes font déjà. Wal'iyadu billah. Qu'Allah récompense en bien tous ces grands savants et ces mashayikh qui ont dévoilé cette supercherie. On les a attaqués de tous bords. On a essayé de les toucher de près ou de loin. Mais Allah tabaraka wa ta'ala les a élevés. Cheikh Mahmoud Shakir avait déjà répondu à Saïd Qutb dans les années 50, dans les journaux. Et il avait fait plusieurs articles sous le titre « La tasubbu ashabi »« N'insultez pas mes compagnons » tiré du hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Et Saïd Qutb a répondu à Mahmoud Shakir. Il y a la réponse à ceux qui disent « Saïd Qutb n'a pas été conseillé » ou « Il a commis une erreur, il ne savait pas ». Non, même dans le Jami'at al-Azhar, Jami'at al-Azhar, des mashayikh de l'Azhar avaient répondu à Saïd Qutb et mettaient en garde contre Saïd Qutb et ses écrits là-dessus. Mahmoud Shakir, c'est le petit frère du grand savant dans le hadith, Ahmed Shakir. Et lui, c'était un imam, une référence dans la langue arabe. Rahimahullah ta'ala. Al-Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Douaysh, rahimahullah, c'est un Saoudien qui est mort en 1989. Il avait écrit un livre où il a énuméré les erreurs dogmatiques qu'on retrouve dans le tafsir de Saïd Qutb, qui n'est pas un tafsir. Et il en a énuméré, si je ne me trompe pas, près de 180. C'est un livre qui est de Abdullah al-Douaysh, rahimahullah ta'ala. Al-Sheikh al-Albani, alayhi rahmatullah, à maintes reprises, avait fait ses remarques contre ses erreurs de Saïd Qutb. Et les frères musulmans se réunissaient et ils en ont voulu pour cela. Et ils avaient dit que toute personne membre des frères musulmans qui assisterait au cours de Cheikh Al-Albani sera radié, banni du mouvement des frères musulmans. Il mettait en garde contre l'assise auprès de Cheikh Al-Albani. Et certains parmi eux ont même écrit dans des magazines affiliés à la secte des frères musulmans. Al-Albani yukaffir Sayyid Qutb. Pour faire fuir les gens de l'Albani, que l'Albani rend mécréant Saïd Qutb. Alors que l'Albani, rahmahullah, a dit qu'il avait des positions, des propos très graves. Et parmi ces propos, il y en a même qui font partie, qui peuvent faire partie de la mécréance. Mais eux, ils en ont conclu comme ça pour éloigner les gens de lui, tellement qu'ils ont mis un haut stade Saïd Qutb. Interdiction de parler en mal de Saïd Qutb, mais de parler sur certains compagnons, la porte est ouverte. Wallahu musta'an. C'est un effort de réflexion. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais tout n'est pas faux, et ainsi de suite. Wal'iyadu billah. Tellement que l'éducation, elle est mauvaise. Et ils viennent vous dire quoi ? L'éducation, l'éducation. Quelle éducation ? Une éducation basée sur quoi ? Sur l'hypocrisie et le mensonge. Il n'y a pas de véracité. Elle n'est pas vraie. C'est du théâtre, si on peut dire. Ils se comportent quand ils sont l'un face à l'autre et chacun garde ce qu'il garde dans son cœur. Elle est où la véritable fraternité sincère et véridique? Il n'y a pas de bien dans des gens qui ne se conseillent pas. Il n'y a pas de bien dans une personne qui n'accepte pas le conseil. Quel comportement? Quelqu'un qui ne se comporte pas convenablement face à la parole divine, face à la parole prophétique, puis il vient te parler de comportement. Pour la moindre excuse, il rejette, repousse la parole d'Allah, la parole de son prophète, puis Puis il vient te parler de comportement. Il est où le comportement envers Allah, envers son prophète, sallam, envers les prophètes, envers les compagnons, subhanallah. Non, ce comportement convenable, il faut l'avoir envers la secte et ses leaders. Wal'iyadu billah. Une éducation qui émane que de gourous, qui ne sont là que pour égarer les gens. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Et aussi, Cheikh Rabi', hafidhahullahu ta'ala, pourquoi toute cette guerre contre lui? Pourquoi toutes ces paroles? Parce qu'il a décidé d'aller regarder clairement qu'est-ce qui se trouve dans les livres de ces protobots. Tellement que ce nom-là, il sort, les gens le prennent pour une référence, et certains ulama ont fait des remarques là-dessus, il est parti et il a fait une étude approfondie sur les ouvrages et les écrits de ces protobots. Un désastre. Et il a sorti des livres là-dessus. Il a écrit des livres là-dessus. Mata'im Sayyid Qutb fi ashabi Rasulillah. Les insultes, dénigrements, rabaissements, critiques de cette proto à l'encontre des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Adwa ala kutub Sayyid Qutb wa fikri. Lumière sur les écrits, les ouvrages, les livres de Sayyid Qutb et sa pensée, son idéologie. Ça, c'est parmi les titres des livres qu'il a écrit là-dessus. Lorsque une lettre de 4 pages s'est propagée dans le monde, et il ne fait aucun doute que les frères musulmans et leurs filiales y sont pour quelque chose, s'est propagée, ils l'ont appelée la lettre d'or, le message d'or attribué à Bakr Ben Ibn Abdillah Abu Zayd Rahimahullahu Ta'ala. Cheikh Rabi Hafidhahullahu Ta'ala avait pour habitude que lorsqu'il écrit un livre, il ne le publie qu'après avoir demandé conseil auprès de Shuyukh, parmi ses professeurs et parmi ses pairs. Donc il écrivait, il envoyait en manuscrit, puis il regardait s'il y avait des remarques, s'il y avait des choses à changer ou pas. Et parmi ceux à qui il a écrit, une fois, il y a Bakr Abu Zayd. Puis, Cheikh Rabi', il attendait la réponse de Bakr Abu Zayd. Il ne l'a pas eu. Et il fut surpris un jour de trouver ce message de 4 pages, qui est la réponse publiée chez beaucoup de gens, et lui-même ne l'avait pas. Il a contacté Bakr Abu Zayd. Bakr Abu Zayd a démenti. Il a dit, je ne sais pas comment cette lettre, elle s'est retrouvée chez les gens. Moi, cette lettre-là, je te l'ai envoyée à toi tout seul. Il lui a dit, d'accord, j'accepte ta phrase, que tu n'y es pour rien. Alors, écris une déclaration sur ce sujet. Et il a attendu les semaines. Une semaine, 2 semaines, le temps, il n'y a rien eu de fait. Alors là, Cheikh Rabi' a répondu à ces 4 pages en un livre entier qui s'appelle Al-Haddul Fasil Bain al-Haqi wal-Batil. Le discernement, la distinction entre la vérité et le faux. Hiwar ma'a Bakr Abu Zayd. Dialogue. Discussion avec Bakr Abu Zayd. Ça, c'est l'origine de ce livre-là. Al-Haddul Fasil Bain al-Haqi wal-Batil. Même le fils de Cheikh Rabi', le Cheikh Mohamed Rabi' al-Madkhali, pas Cheikh Mohamed Ben Hadi, Hafidhallahu al-Jami'a. Cheikh Mohamed Ben Hadi n'est pas le fils de Cheikh Rabi'. C'est son élève. D'accord, c'est la même tribu, mais c'est son élève. Son fils à lui, on l'appelle Mohamed Rabi' al-Madkhali. Bien qu'après c'est Ibn Hadi. Ça peut se, ça ressemble. Et le fils de Cheikh Rabi est bien plus vieux que Cheikh Mohamed Ben Hadi. Ils n'ont pas le même âge. Le fils de Cheikh Rabi est déjà à la retraite. Hein, il est déjà à la retraite, il a près de 70 ans. Le fils de Cheikh Rabi. Et il dit qu'un jour, il y avait Abdullah ibn Jibril. Rahimahullah. Pareil, ce sont des savants de Riyad. Ils étaient à Riyad. Mais ils défendaient, d'une manière ou d'une autre, les frères musulmans. Sayyid Qutb, Hassan al-Banna. C'est pour cela qu'ils avaient des soucis dans ces questions-là. Et Abdullah ibn Jibril, ça c'est le fils de Charles Karakont, il était chez Cheikh Rabi'a. À l'époque où Cheikh Rabi'a habitait à Médine, avant d'aller à la Mecque. Et Cheikh Rabi'a, il lui dit, et Mohamed, Cheikh Mohamed Rabi'a, il dit que Abdullah ibn Jibril, il est parmi les plus durs dans le jugement sur les chiites et les rawafid. Le plus dur sur le jugement face à eux. Et il lui dit, que dis-tu de celui qui dit telle chose? Il lui ramène plein de citations. Il lui dit, c'est de la mécréance. C'est l'égarement total. Des paroles dures. À la fin, il lui dit, tout ce que je t'ai cité, ce sont les paroles de Sayyid Qutb. Et là, la personne, elle change. Non, mais comment? Et ainsi de suite, il essaie de trouver un échappatoire. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Tayyib. Uthman ibn Affan, radiyallahu an, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui meurt en sachant, il a la connaissance, il a le savoir. Wa huwa ya'lam. Là, on est dans la première condition, al-ilm. Et ici, il est bien précisé. Wa huwa ya'lamu. Tout en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, entrera au paradis. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ce n'est pas la traduction de la ilaha illallah. Ce n'est pas la traduction de la ilaha illallah. Des divinités, il y en a plein, innombrables. Chacun dans ce monde, dans le passé, dans le présent et dans le futur, est ce qu'il adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Entre ceux qui adorent des morts, des saints, des prophètes, des djinns, des anges, la pierre, les arbres, les animaux, les astres, le soleil, les étoiles, chacun est ce qu'il adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc des divinités, il y en a plein. La seule différence, c'est qu'elles sont toutes fausses. Et adorées dans le faux et injustement. Et la seule, l'unique, véritable divinité, c'est Allah. Azza wa Jal, qui lui seul est digne d'être adoré et mérite l'adoration. Une adoration et un culte qui lui est rendu exclusivement. Donc de dire il n'y a de Dieu que Dieu, ce n'est pas l'explication, ni la traduction de la ilaha illallah. La ilaha, il y a une négation. Et il n'y a pas de divinité. C'est-à-dire que toute divinité est fausse. Et qu'est-ce qu'une divinité? C'est tout ce qui est adoré. Une fois adorée, elle devient divinité. Mais elles sont toutes fausses. Illa, sauf, exception faite à l'unique et le seul Allah, Azza wa Jal, qui lui est une véritable divinité. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Seul véritable, c'est Allah Azza wa Jal. Tout ce qui est en dehors de lui n'est que le faux. Et Quraysh avait bien compris ça. Lorsque le prophète sallam les invite, Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez, vous gagnerez. Ils ont compris, ce sont des Arabes qui parle encore une langue pure, qui n'a pas encore été affectée, mélangée avec d'autres langues. C'est l'arabe dans toute sa clarté, comme fut révélé le Coran, bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe évidente et claire. Il comprenait très bien. Lorsqu'il leur a dit « La ilaha illallah », ils ont bien compris. C'est pour cela que celui qui se convertissait à l'islam, il délaissait tout ce qui était adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et il savait qu'il fallait vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Il comprenait cette phrase. Et qu'est-ce qu'ils ont dit pour Quraysh ? Pourquoi ils n'ont pas accepté ?« Ja'al al-alihata ilahan wahida » A-t-il fait de toutes les divinités, au final, qu'une seule divinité ? On doit délaisser toutes ces divinités pour s'adonner à l'adoration d'une seule divinité, ils avaient compris. Voilà une chose bien étrange. Eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient continuer à adorer autre qu'Allah, Azza wa Jal. Tayyib, al-Sharh, l'explication. Le commentaire de Cheikh Dr. Al-Allama, l'imam Muhammad Aman ibn Ali Al-Jami, rahimahullah ta'ala, il dit « Al-Hadith fi sahih muslim » Le hadith qu'on vient de voir, de citer, on le retrouve dans sahih muslim. « Wa yujma'u bayna hadha al-hadith wa bayna al-ahadith al-ukhra allati fiha man qala la ilaha illallah » فنستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله اشتراط التلفظ ومن هذا الحديث اشتراط العلم أي التلفظ مع العلم وغني ce hadith avec les autres hadiths qui parlent du même sujet de la ilaha illallah dans lesquels il est dit « celui qui dit la ilaha illallah ». Là, ici, il est dit quoi ? « Celui qui sait, tout en le sachant ». Dans d'autres hadiths, il est précisé « celui qui prononce, qui formule avec sa langue la ilaha illallah ». Donc, dans ces hadiths, dans lesquels il est dit « celui qui dit la ilaha illallah », ici, la condition, c'est de prononcer, de formuler. Et ce hadith qu'on vient de citer, la condition, c'est de le savoir, d'en avoir la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut prononcer en sachant la signification de ce que tu dis, de ce que tu prononces. Hein, comme « Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui dont la dernière parole est « la ilaha illallah » entrera au paradis. Man qala la ilaha illallah la yuridu bidhalika illa wajha Allah dakhala al-jannah. Celui qui dit harrama Allah alayhi an-nar. Celui qui dit la ilaha illallah ne cherchant par là que la face d'Allah, Allah lui interdit l'enfer. Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah par véracité de son cœur entrera au paradis. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont la dernière parole إله إله إلا الله خاب علي. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. L'heure ne sonne pas. La fin du monde ne vient pas alors que sur terre il y a encore quelqu'un qui dit لا إله إلا الله. Il y a plein de hadiths qui parlent de cela. من مات وهو يعلم. Celui qui meurt tout en sachant. وَهَذِهِ جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ Et là, c'est une phrase qui parle de la situation de la personne. La situation de cette personne, c'est qu'il meurt en sachant que la ilaha illallah. وَالْحَالِ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Et la situation, l'état de cette personne, c'est qu'il a le savoir. Il a cette condition. Il sait que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Dakhala al-Jannah. Il entrera au paradis. Dakhala al-Jannah min awwali wahlatin يحتمل. دخل الجنة أي مصيره الجنة يحتمل. Il entrera au paradis dès le début, directement, c'est possible, on peut le comprendre comme ça. Il entrera au paradis dans le sens que la finalité de cette personne, au final, il entrera au paradis. C'est aussi possible. Hein, ces deux compréhensions, on peut le tirer de ce hadith. Entrera au paradis, il n'y a pas de précision là. Donc il se peut que ça veut dire il entrera directement au paradis, et il se peut que, quoi qu'il lui arrive, au final, il terminera au paradis. Tout ceci est possible. إن كان من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب كالذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. S'il fait partie de ceux qui entreront au paradis sans être jugé, sans jugement, hein, il ne sera pas jugé, ni châtié, puni. Directement, il va au paradis, comme ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'eux qu'ils ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. Ils ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. Qu'ils ne se soignent pas par le feu, comment on appelle ça ? La cautérisation. Et qui ne sont pas superstitieux. D'accord ? Ça, on a un hadith là-dessus. Et en annotation, il le ramène. « Juz'un min hadithi Imran ibn Hussein ». Ça, c'est une partie d'un hadith de ce noble compagnon, radiyallahu anhu, Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu. « Qala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam, yadkhulu al-jannata min ummati » 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. أخرجه مسلم. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Donc d'après Imran ibn Hussein رضي الله عنه. Que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, entreront au paradis 70 000 de ma communauté. 70 000 personnes de ma communauté. Sans être jugés. Hein? Donc, eux, les gens attendent le jugement, eux, ils ne seront pas jugés. Directement, ils vont au paradis. Les compagnons ont dit, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Qui sont ces personnes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui ne se soignent pas par le feu, qui ne demandent pas à qu'on leur fasse la ruqya, et qui ne sont pas superstitieux. Le hadith rapporté par Muslim. Et c'est dans ce hadith où il y a un compagnon, radiyallahu anhu, qui s'appelle Ukashatu ibn Mihsan. Ukashatu ibn Mihsan, radiyallahu anhu, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah pour que je sois de ce nom, que j'en fasse partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu en fais partie. Un autre homme a demandé la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sabaqa biha ukasha. Ukasha t'a précédé. Il t'a devancé, il l'a demandé avant toi. Al-Ruqya ici, il est permis de demander, mais le meilleur, c'est de ne pas le demander. Ici, c'est la personne qui demande. Si quelqu'un lui a fait Al-Ruqya sans que lui-même il l'ait demandé, il n'entre pas là-dedans. C'est celui qui demande l'Ruqya. D'être touché, d'être malade, d'être habité, vous comprenez le mot habité ici, hein, n'est-ce pas? D'être habité par des shayatins, des démons, d'être touché par de la sorcellerie, c'est des épreuves. Ce sont des épreuves. Mais ce n'est pas une fatalité. Une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit, invoque Allah pour qu'Allah me guérisse de ce qui me touche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux, tu tu patientes dans cette situation-là et tu auras le paradis. Et si tu veux, j'invoque Allah pour qu'il te guérisse. Elle lui a dit, je vais patienter pour avoir le paradis. Donc, la personne, on ne sait qui est vraiment dans le bien. Quelqu'un peut ne pas être touché par ces choses-là. Mais on sait ce qui va l'attendre dans l'au-delà. Quelqu'un peut être éprouvé par ces choses et d'autres. Et Yom al-Qiyamah, il vient nettoyer, purifier de tout. Subhanallah. Qui est le gagnant au final? Donc on ne sait qui est vraiment. Subhanallah. On demande à Allah de nous préserver de tout mal. Mais face à l'épreuve, il faut se comporter en bon croyant. On a cette croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est bien précisé. Que tu aies cette croyance, cette foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est ça, il y a un comportement à voir là-dessus. La foi, il faut qu'elle se reflète en toi. Et combien de gens, face aux épreuves quelconques, tu vois que leur foi, elle est remise en cause. Subhanallah. La personne, elle en arrive à douter. Wal'iyadu billah. Qu'ai-je fait à Allah pour subir ça? Vous entendez ce genre de phrase? Subhanallah. Hein? Où les gens disent, un tel, il ne mérite pas ça. Comment? Vous connaissez la personne mieux que son Seigneur qui l'a créé? Subhanahu wa ta'ala. Pensez-vous que vous êtes plus clément envers cette personne que le Créateur, subhanahu wa ta'ala? Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Hein? Ça, les épreuves, ça peut être difficile, mais Allah, tabaraka wa ta'ala, ne donne à la personne que l'épreuve qu'il est capable de supporter. Regardez un imam qui s'appelle Abu Bakr al-Ramli, Cheikh Abdullah al-Bukhari, il raconte en détail son histoire, ce qu'il a subi par les Fatimiyyin, ceux qui se font appeler le Fatimiyyin, c'est l'Ubaydiyyin. Il s'affilie à Fatima mensongèrement. Fatima n'a rien à voir avec eux, radiallahu anha. Mais c'est pour gagner le cœur des gens, pour dire qu'ils sont des descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des rawaf, des extrémistes parmi les shi'a, qui ont fait du mal dans la communauté musulmane et qui ont gouverné l'Égypte pendant longtemps. Et ils ont attrapé cet imam, Ar-Ramli, rahimahullah. Et ils l'ont châtié. Et ils l'ont dépecé. Ils l'ont vidé de ce qu'il a dans son intérieur. En laissant que la peau pour l'empailler. Wal'iyadu billah. Pendant qu'ils étaient en train de le couper et de lui faire ce châtiment qui est énorme, combien pourrait résister? Il est resté ferme et il répétait à maintes reprises ce verset coranique en disant « Kana dhalika fil kitab mastura » Ceci était déjà écrit dans le livre. Il montrait par là sa foi au destin. C'est une chose qu'Allah avait décrétée, on ne pourra rien faire. « Kana dhalika fil kitab mastura » Qui pourrait résister et supporter un châtiment aussi douloureux? Qu'Allah nous préserve de tout mal. Tayyib. In kana min alladhina yadkhuluna al-jannata min ghayri hisabin wa la 'iqab kalladhina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Al-amru wadih. Le sujet est bien clair. Que s'il fait partie de ceux qu'Allah a décrété qu'ils entreront directement au paradis, bah ceux-là, ils rentrent au paradis dès le premier moment. Et s'il fait partie d'autres catégories de gens, c'est-à-dire là, on comprendra qu'au final, il entrera au paradis. Masir ahli tawhid. Masir man sadaku fi tawhid. Walau dakhalu an-nara bi dhunubihim. Walam yus'ifhum Allah subhanahu wa ta'ala. بشفاعة الشافعين وارتكبوا ما يوجب دخول النار فدخلوا ولكن مآلهم إلى الجنة ولو دخلوا النار فمآبهم إلى الجنة. Ce qu'il advient des adeptes du monothéisme, ce qu'il advient de ceux qui ont été véridiques dans le monothéisme, même s'ils entrent dans le feu de l'enfer du fait de leur péché et qu'Allah ne leur a pas permis d'entrer dans ceux qui vont gagner l'intercession des intercesseurs et qu'ils ont commis ce qui les a amenés à entrer dans le feu de l'enfer, et ils sont entrés dans le feu de l'enfer, mais plus tard, ils entreront au paradis. Même s'ils viennent à entrer dans le feu de l'enfer, au final, ils termineront au paradis. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Voilà le dogme et la croyance des adeptes de la sunna et du groupe du consensus. Parce que Ahle Sunna, ils disent que la foi n'est pas un bloc, tu l'as ou tu ne l'as pas. Non, la foi, elle bouge. Elle monte et elle descend. Elle augmente et elle diminue. Elle monte, augmente avec les bonnes œuvres. Et elle descend, diminue avec les mauvaises œuvres. Ça, c'est la croyance de Ahl Sunna. Plus les gens agissent en bien, et plus leur foi est élevée et forte. Et plus les gens agissent en mal, et plus leur foi, elle est basse et faible. Contrairement aux Khawarij et aux Murji'a, qui eux, voit que la foi est un bloc. Elle ne monte pas et elle ne descend pas. Elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Et de ce fait, les uns qui sont dans l'excès, l'exagération, qui sont les Khawarij, ils ont dit que celui qui commet des grands péchés, sa foi l'a quitté. Et il devient mécréant. Et s'il meurt ainsi, il est éternellement dans le feu de l'enfer. Et face à eux, de l'autre côté, ceux qui sont touchés par un autre extrême, qui est le relâchement, le laxisme, al-murji'a, eux, ils ont dit, puisque la foi ne monte pas, ne descend pas, c'est qu'un bloc, celui qui commet les pires des péchés, il a une foi aussi forte que les prophètes et les véridiques. Elle est au même stade. Et les deux sont dans l'égarement total. Et la vérité, elle est chez Ahl Sunna. لا يبقى في النار ممن دخل النار من عصاة الموحدين. لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. Voilà la croyance de Ahl Sunna wal Jama'a. Les pécheurs parmi les monothéistes, aucun d'entre eux ne restera au final dans le feu de l'enfer. Celui qui a la plus petite quantité de foi, même si cela atteint le poids ou la taille de la plus petite des fourmis, la petite fourmi rouge qui t'est donnée en exemple, quand on veut dire que quelqu'un il a vraiment le strict minimum. C'est ici ce qui est voulu par le mot al-dharra. Aujourd'hui en arabe, al-dharra, c'est l'atome. On donne ce mot-là pour dire l'atome. Parce que l'atome, c'est tellement minime qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Donc on appelle ça en arabe al-dharra. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette signification-là, il ne la connaissait pas. Donc quand quelqu'un traduit, il dit le poids d'un atome, c'est faux. L'atome n'était pas connu à l'époque. Et lorsqu'on retourne dans les livres de langue arabe, on cherche, les ulama précisent, que veut dire un dharra ? Ici, c'était la plus petite des fourmis. Une fourmi rouge, hein, qui t'est donnée comme exemple. Voilà. Donc, ce n'est pas l'atome, parce que l'atome, c'était pas connu à l'époque. C'était pas connu.
La Bouddha أن يخرج
أن يخرج هذه عقيدة هذه عقيدة ثابتة. Obligatoirement, il sortira un moment ou l'autre. Ça, c'est une conviction, une croyance ferme. يخرج بشفاعة الشافعين. Il y en a qui vont sortir avec l'intercession des intercesseurs. وسيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم et aussi le maître des intercesseurs, le prophète Mohammed, il va intercéder aussi. Donc il y en a qui vont gagner cette intercession. Yashfa'u al-anbiya, wal-ulama, wal-salihoun, wal-atfal. Il y a les prophètes qui intercèdent. Il y a les savants qui intercèdent. Il y a les vertueux qui intercèdent. Les enfants qui intercèdent. Wa fil nihaya, yakhrujuna bi mahd. Et les derniers au final sortiront par seulement la clémence et la miséricorde du plus miséricordieux des miséricordieux, glorifié soit-il. Subhanahu wa ta'ala. هذا لأن هذه الكلمة من قالها مستيقنا من قلبه صادقا بها فإنها تنفعه. Ceci parce que cette parole, cette formule, la ilaha illallah, celui qui l'a dit, qui la prononce avec certitude de son cœur et véracité, elle lui sera bénéfique. Elle lui sera utile, quel que soit ce qu'il a commis comme péché. ثُمَّ بَعْدَ ارْتِكَابِ مَا ارْتَكَبَ إِمَّا أَنَّ اللَّهَ يسعفه بشفاعة الشافعين فلا يدخله النار. Puis après avoir commis ce qu'il a commis, soit Allah il lui fait gagner l'intercession des intercesseurs, donc il ne le fera pas entrer dans le feu de l'enfer. لأن من أنواع شفاعته صلى الله عليه وسلم, car parmi les différentes sortes d'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yashfa'u liman tasawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Il va intercéder alayhi salatu wa salam pour les personnes dont les bonnes actions et les mauvaises actions sont égales. Il n'y en a pas un qui a dépassé l'autre. Hein? On juge la personne et au final on se retrouve face à une personne qui a autant de bonnes actions que de mauvaises actions. C'est-à-dire que les deux plateaux de la balance, il n'y en a aucun qui l'emporte sur l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour cela. فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ et il entrera au paradis. فَيَشْفَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ صَلَّى Et le prophète sallam va aussi intercéder pour ceux dont les bonnes actions ont dépassé les mauvaises actions. Et il entrera au paradis par le biais de l'intercession du prophète sallam. Et il en est de même dans les différentes sortes d'intercession. فهذه الأحاديث, on va terminer là, Inch'Allah, il ne reste pas beaucoup. فهذه الأحاديث التي بين أيدينا لا بد أن تفهم هكذا. Donc ces hadiths qu'on a face à nous, on se doit de les réunir pour bien les comprendre. On se doit de les comprendre comme on vient de le voir. منها ما يدل على أن من قالها لا يدخل النار أصلا. Il y en a parmi ces textes prophétiques qui précisent que celui qui l'a dit, qui l'a prononcé, لا إله إلا الله, de base, il n'entrera pas dans le feu. ومنها ما يدل على أنه لا يخلد في النار. Et d'autres qui viennent nous préciser, d'autres textes prophétiques qui viennent nous préciser que celui qui l'a prononcé, formulé, ne résidera pas éternellement dans le feu de l'enfer. المعنى على حسب ما شرحنا على حسب ما شرحنا وأشرنا إليه. Le sens, c'est comme on vient de le clarifier, on vient de l'expliquer. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.